RTS.
Les Français, les Britanniques, les Belges ont souvent eu l'occasion de se demander comment gérer leur passé colonial. C'est un petit peu moins le cas en Suisse.
Formellement, la Suisse en tant que telle n'a pas eu de passé colonial, non. Ce qui est un peu différent, par contre, des Suisses.
Il y a vraiment une omerta en fait du racisme, mais au-delà de ça, il y a une omerta en fait de l'implication suisse et de la contribution suisse à l'esclavagisme, au colonialisme et aux théories racistes.
À l'école, on ne m'a jamais parlé de conquête coloniale suisse. En plus, on n'a pas d'accès à la mer. Et pourtant, aujourd'hui, ici, tout comme à Londres ou aux États-Unis, on se demande ce qu'on doit faire de certaines statues érigées en l'honneur de personnalités liées à l'esclavagisme et au colonialisme. Alors en réalité, il ressemble à quoi le passé colonial de la Suisse ?
Le point J.
C'est un épisode de l'histoire suisse qui a longtemps été oublié, hein, occulté aussi sciemment ou non.
Ça, c'est la voix d'Aline Zuber. Elle est historienne et vous parlera plus tard dans cet épisode de l'étude qui a été menée à Genève pour recenser les lieux et monuments de l'héritage raciste, colonial et esclavagiste dans l'espace public. Et elle le dit, notre passé colonial a été oublié. Mais depuis que les luttes antiracistes ont pris de l'essor, notamment avec le mouvement politique Black Lives Matter et le meurtre de George Floyd en 2020, la question est de plus en plus discutée. L'historien Fabio Rossinelli en a fait l'objet d'une recherche et d'un livre paru en janvier. Bonjour Fabio Rossinelli.
Bonjour.
La Suisse n'a pas de passé colonial officiel et pourtant, il existe. C'est un peu un chapitre fantôme de notre histoire.
Oui, je dirais que, en général, le fait que la Suisse n'aille pas eu de passé colonial officiel a découragé la recherche en histoire dans ce domaine. Une fois, on analysait l'histoire coloniale comme une histoire essentiellement entre États colonisateurs, des États qui avaient des visées territoriales, militaires, à l'étranger. Et aujourd'hui, on tend à revoir cette même histoire coloniale, non pas comme l'histoire d'empires nationaux, mais comme un espace global, un système monde impérial dans lequel tout pays, tout acteur, toute couche sociale, y compris en Suisse, a pu participer à sa manière.
Votre point de départ pour aborder ce pan de l'histoire dans votre livre, ce sont les sociétés de géographie. Qu'est-ce que c'est exactement une société de géographie ?
Alors, les sociétés de géographie dont je parle se situent au 19e siècle, qui était l'époque de leur fondation. En gros, c'était des lieux de rencontres informelles pour les milieux dirigeants des pays en Europe, en Occident essentiellement. Alors on parle de politiciens, de fonctionnaires, de chefs de l'armée et de la marine, mais aussi de personnalités intellectuelles, aussi de dirigeants d'entreprises et dirigeants de missions. Le but de ces sociétés était d'étudier la géographie d'outre-mer, une géographie qui, à cette époque, était méconnue en Occident. Et pourquoi étudier cette géographie ? Eh bien, pour lancer des expéditions d'exploration, voire de colonisation, dans ces contrées lointaines, avec l'appui de l'État, si possible, un appui qui était variable et qui, en tout cas, pouvait arriver jusqu'à prendre totalement en charge ces expéditions pour les rendre des programmes d'État.
La Suisse n'avait pas de velléité d'expansion extra-européenne. Alors pourquoi a-t-on tout de même des sociétés de géographie et quel était leur rôle ?
À leur intérieur, on trouvait, à titre informel et privé, bien entendu, des conseillers fédéraux, des conseillers d'État, des grands banquiers. Typiquement, on peut mentionner Crédit Suisse. On avait également des représentants des missions, la mission de Bâle, la mission suisse romande. Le but de ces sociétés en Suisse était principalement d'élaborer des stratégies d'expansion du pays, mais dans notre cas, alternatives à la création d'un empire. Il faut se souvenir en fait que la Suisse n'avait pas d'accès à la mer, n'avait pas d'engagement militaire à l'étranger, ni une armée incroyable. En revanche, à partir des années 1860, la Suisse, en tant que confédération, mais aussi les Suisses, commencent à se spécialiser dans des secteurs tels que l'humanitaire, les bons offices, aussi les services bancaires issus d'un pays se voulant neutre. Et ce sont des armes, entre guillemets, qui permettent à la Suisse d'entrer dans la cour des grandes en Europe.
Quels sont les enjeux au XIXe siècle pour la Suisse dans cette conquête coloniale ?
Je prendrai l'exemple du Congo. Et c'est Léopold II, le roi de Belge, qui vise en premier à s'approprier ce territoire et qui lance une initiative pour cette appropriation. Et cette initiative consiste, en 1876, à regrouper les sociétés de géographie européennes pour coordonner et pour exécuter, toutes ensemble, un projet de soi-disant civilisation de l'Afrique centrale. Ça consistait tout d'abord à découvrir, cartographier, pénétrer ces contrées et en même temps à les coloniser au nom de l'abolition de l'esclavage. Donc un esclavage qui serait mené par des Arabes, par des musulmans, selon les informations ou plutôt le récit qui circulait en Europe à cette époque. La Suisse, n'étant pas une puissance maritime, n'est pas appelé par Léopold II à participer à son projet. C'est la Suisse qui fait la demande d'y participer, via ses sociétés de géographie notamment.
Donc on le comprend bien, la Suisse n'a pas été sollicitée par Léopold II, mais elle se porte volontaire. Pourquoi ?
Il y avait des visées de pénétration commerciale, je pense surtout à Saint-Gall, à la Suisse orientale, à l'industrie du textile. Mais ce n'est pas ça qui a primé, c'est surtout les positions de la Suisse occidentale qui étaient des positions qui se basaient principalement sur des services bancaires, donc devenir un partenaire du point de vue bancaire pour Léopold II. Une deuxième question concernait le monde du droit international, si vous voulez. Gustave Moynier, le cofondateur de la Croix-Rouge à Genève, s'est beaucoup engagé pour aider Léopold II essentiellement à élaborer un cadre juridique international qui permettait de constituer son État indépendant du Congo et pour réglementer également les conflits géopolitiques susceptibles de surgir entre empires européens en Afrique. Il y avait aussi la participation de la Confédération du point de vue diplomatique en tant qu'arbitre pour des litiges qui ont vu s'opposer le Congo de Léopold II à la France et au Portugal dans la seconde moitié des années 1880. Et toujours durant cette période, la Confédération, avec le CICR à Genève, valide l'adhésion de l'État indépendant du Congo en tant qu'association de la Croix-Rouge centrafricaine et congolaise, ce qui est paradoxal au vu de ce qui surviendra au Congo au niveau de crimes humanitaires, le fameux scandale des mains coupées.
Le scandale des mains coupées fait référence à des massacres d'une terrible cruauté qui ont eu lieu au Congo entre 1885 et 1908. Toujours sous couvert de sa mission civilisatrice et humanitaire, Léopold II s'octroie les principales richesses du pays, le caoutchouc et l'ivoire, ainsi que le monopole de leur exploitation. Se met alors en place un système brutal pour forcer le travail des populations autochtones et intensifier la production de caoutchouc. Un asservissement par les massacres, la torture, les châtiments corporels, la destruction des villages. Si ces villages ne rendaient pas la quantité de caoutchouc voulue, une milice belge avait pour habitude de couper la main des habitants. Au total, près de 10 millions de personnes auraient perdu la vie pendant cette période, soit un tiers de la population congolaise. Fabio Rossinelli, est-ce que ces sociétés de géographie suisses ont cherché à cacher leur participation au colonialisme ?
Absolument pas. Mm-hmm. Les sociétés de géographie en Suisse, mais comme celles à l'étranger, revendiquaient fièrement leurs apports dits civilisateurs, non seulement à l'époque où les faits se déroulaient, mais également 30 ans plus tard, 50 ans plus tard. Alors toute cette question du Congo de Léopold II et de la participation helvétique a lieu essentiellement entre 1876-77 et 1908, où la Belgique, suite aux crimes humanitaires commis par l'administration léopoldienne au Congo, la Belgique va reprendre le Congo et va le transformer en colonie, donc le Congo belge. La figure autrefois vue comme philanthropique du roi des Belges, Léopold II, est totalement discréditée. En Suisse, il y a des mouvements qui vont discréditer également Léopold II, mais pour la plupart, c'est-à-dire dans la presse, dans les sociétés de géographie, y compris dans les organes officiels de la Confédération, cette discréditation n'a pas lieu. Au contraire, ça a lieu une apologie de Léopold II. Et cela dure jusqu'à dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30 et 40.
Ça a été revendiqué par ces sociétés de géographie, et pourtant, on l'a oublié. Aujourd'hui, plusieurs initiatives sont mises en place en Suisse pour mettre ce passé en lumière et pour réfléchir à notre interaction avec cet héritage raciste et colonial. À Neuchâtel, par exemple, le Musée d'art et d'histoire a inauguré en janvier sa nouvelle exposition permanente intitulée « Mouvement » pour comprendre l'implication des Neuchâtelois dans l'esclavage. La ville de Genève a quant à elle mandaté l'étude « Monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois » État des lieux historiques. Aline Zuber est historienne et elle a participé à cette étude.
On est arrivé au résultat que Genève, effectivement, contrairement à un certain récit, a une part importante dans justement cette histoire raciste et coloniale. Et puis aussi, surtout, le résultat, c'est qu'il faut traiter cette question, c'est important. On en a recensé 33, mais je tiens à préciser que ce n'est pas une liste exhaustive. C'est des lieux, en fait, qui concernent en fait, des personnages ou alors des événements qui ont un lien d'une façon ou d'une autre avec cette histoire du racisme, cette histoire du colonialisme, parfois aussi l'histoire de l'antiracisme, de l'abolitionnisme. C'est minoritaire, mais il y a quelques exemples. Et quant aux pistes de réflexion, il y en a à peu près une dizaine. C'est plusieurs propositions, ce qu'on peut faire par rapport à ces monuments quand ils sont problématiques, controversées et sources de violence. Alors, ça va de l'inaction, hein, c'est pas vraiment ce qu'on propose, mais ça va de l'inaction au déboulonnement et à la destruction des monuments, en passant par d'autres pistes comme, par exemple, le voilage d'un monument, une intervention artistique sur un monument, dédoubler le monument avec un autre monument qui vient le confronter. Il y a aussi l'idée de faire vaciller le monument et puis d'autres choses.
Fabio Rossinelli, comment cette période coloniale au Congo est-elle perçue aujourd'hui par les historiennes et historiens ?
L'expérience congolaise de l'État indépendant du Congo et de Léopold II en général est rappelée dans l'historiographie comme l'une des expériences les plus brutales du point de vue des crimes humanitaires à l'égard des populations autochtones.
La Suisse n'est pas du tout dans une perspective de réparation par rapport à cela. Comment vous l'expliquez ?
Comme elle n'avait pas de passé colonial officiel, tout se limite à cela. Encore tout à fait récemment, régulièrement, des représentants des autorités fédérales, lorsqu'ils s'exprimaient, quand ils étaient invités à l'étranger, etc., ils revendiquaient l'absence de la Suisse dans le passé à la fois colonialiste, esclavagiste.
Ignacio Cassis, dans l'émission Samstag Rundschau de la SRF en février 2021.
Nous avons vraiment beaucoup de chance de n'avoir jamais été une puissance coloniale.
Mais la Suisse était aussi impliquée dans le commerce d'esclaves.
Pas en tant que pays. Il s'agissait de personnes suisses, d'entreprises suisses, mais le pays en tant que tel, les organes du pays n'étaient pas impliqués.
Je ne sais pas si la recherche historique permettra dans le futur de remédier à cette situation ou de faire prendre conscience en tout cas que la Suisse, en tout cas les milieux dirigeants suisses étaient bel et bien impliqués dans tout cela. Peut-être.
Merci Fabio Rossinelli de nous avoir ouvert ce chapitre de l'histoire suisse.
Merci à vous.
Et si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur ce sujet, je vous mets l'étude complète menée à Genève ainsi que la référence du livre de Fabio Rossinelli dans la description de cet épisode. C'est le dernier, avant une petite pause pour le point J. Alors mangez plein de lapins au chocolat en écoutant les épisodes que vous avez manqués et nous, on se retrouve le 25 avril. À bientôt !